Salut Marc, salut Smart, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui respire, qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Et c'est un slip tricolore dont on va parler aujourd'hui. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE. Et d'ailleurs, mais nous vous proposons aussi un petit show de talk, un petit You Talk Too Much, la 9e édition. Vous m'avez peut-être reconnu, je suis votre dinosaure masqué, que dis-je ? Je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis le tonton Chris. Hey, bienvenue dans le monde merveilleux du show vert. Bienvenue dans le monde merveilleux de You Talk Too Much, peuple de catch-up. Alors, édition un petit peu spéciale pour cette 9e édition. On va faire dans le hashtag Defend French Wrestling. On va recevoir un catcheur français. Il a 26 ans. Il est du signe astrologique de la Vierge. Son groupe sanguin, c'est U négatif. Et il a aucun Pikachu shiny. Il porte un masque. Ah, ça y est, le premier gros botch. Il porte un masque. Un beau catcheur masqué, comme vous le savez, que votre tonton Chris affectionne particulièrement sur Catch-Up. Ça me fait particulièrement plaisir de l'accueillir à notre studio. On va pouvoir parler de plein de choses. On va pouvoir parler de promotion française. On va pouvoir parler de catch. On va pouvoir parler de sa carrière. On va pouvoir évoquer un peu tout son parcours au sein du catch français, ce qui n'est pas forcément toujours évident pour tous. Il a lutté, si vous connaissez un petit peu, à l'Atlas. Il a lutté à la NWC. Il a lutté à West Catch. Il a rencontré un certain monsieur Antoine Bernard. Il va nous en parler un peu plus, la Sainte Barbe. Et à la PC, il est un grand partenaire de tag team, même un limite, un clan dont je ne vais pas dévoiler le nom tout de suite. Mesdames et messieurs, c'est sous vos applaudissements que nous recevons un homme de qualité qui a participé au Quality Over Quantity 2020, j'ai nommé Ravage. Salut Ravage.
Nukes. Les Nukes. Bah, merci. Hein. Voilà. Ah bah oui, bah t'as oublié de dire que j'étais le Nukes, mais du coup maintenant le Nukes maxé. ça je le garde à vie. Merci en tout cas tonton. C'est une superbe intro que tu me donnes là. C'est.
Alors un peu de botch.
C'est
hein,
du plaisir.
Ah bah oui. Je botche un peu. Je voulais te la faire en anglais au départ, et puis je me suis dit non. Alors mesdames et messieurs, quand même, 1m80, 85 kilos de viande de catcheur français à You Talk Too Much à notre comptoir. C'est quand même plutôt agréable. On va pouvoir parler de pas mal de choses très intéressantes et dont j'avais envie de parler depuis un moment avec ce jeune homme, hein, n'est-ce pas ? Et écoute, j'ai envie de te poser tout de suite une première question pour te lancer dans le bain. Qui es-tu et quelle est la marque de ton slip ?
Alors moi, c'est Ravage. J'ai, bah, comme tu as dit, toutes les infos un peu principales. J'ai 26 ans, U négatif. Collectionneur de pins et de Pokémon, je viens du Bourg-Palette, mais je suis pas resté trop longtemps là-bas, j'ai dû déménager et tout, enfin, avec les soucis parentaux, etc., les écoles qui te virent, ce genre de trucs, et j'ai déménagé, j'ai posé mes valises en Bretagne, et du coup, je suis un catcheur français masqué, je suis pas non plus un luchador. J'ai juste créé mon identité autour de ça et
non, je et confirme, voilà, je confirme ouais, que t'es pas exactement ce qu'on pourrait appeler un luchador, tout à fait. Je suis d'accord après, avec cette première définition.
Mais après, ouais, au final, j'ai posé mes valises en Bretagne et actuellement, maintenant, je suis dans la région parisienne. Et justement, bah, comme tu disais, tu avais pu me voir à la Wrestling Pro Essen. Du show Quality Over Quantity, l'édition 2020, avec tous mes partenaires, les Nukes.
Ok, donc tes deux partenaires, tu vas pouvoir nous les nommer, quoi, le clan, et voilà, pour pouvoir nous les présenter un peu.
Bah oui, bien sûr. Déjà, le partenaire historique, celui qui sera mon buddy, mon pote pour la vie, c'est Cross. Le bon coup de crosse qui est un ancien champion en fait de la NWC et qui est un gros lutteur en Bretagne, enfin un gros lutteur, c'est le petit, c'est le sale Nukes, tu vois, c'est pas le gars avec le gabarit le plus imposant, mais
c'est un teigneux.
C'est un teigneux, hein. Il n'a pas toujours été comme ça après, mais il a eu une expérience assez compliquée, on va dire. Il a très longtemps lutté en Bretagne, puis c'est au courant de l'année 2018-2019, il a eu un énorme boom. Il a lutté un peu comme moi, il a fait des promotions style WPE. Lui, il est allé plus loin, il a fait il a fait Westcatch, il a fait la Rix, il est allé jusque dans le nord, à l'ICWA, pour catcher dans le pré-show de Révolution, carrément. Il a fait notamment aussi la FRPW à Bordeaux. Donc c'est un gars qui a beaucoup bougé, il s'est entraîné, il a fait plusieurs entraînements aussi en Angleterre. Et Cross, c'est le sale nukes maintenant, parce que il s'est flingué la clavicule il y a quasiment 2 ans de ça, si on compte l'épidémie. Et du coup, il a été privé pendant 1 an de catch, alors qu'il voyait tous les potes qui pouvaient continuer à faire les tournées, etc. Moi qui commençais du coup à faire plusieurs dates avec l'Atlas, qui commençait aussi à bien catcher souvent à l'APC. Lui, non, obligé de recouvrer une blessure de merde, quoi, et de voir tous ses copains, tous ses buddies avancer dans le milieu. Et donc, il est devenu teigneux, il a eu un peu plus de mépris, et il est revenu avec moi avec cette idée, justement, de créer les nukes. À côté de ça, moi, c'était pas non plus une de mes meilleures périodes, puisque j'ai paumé quasiment tous mes matchs de 2019. Enfin, c'est aberrant, quoi. C'est...
Un booking terrible cette année-là, le 2019, quoi. Et alors, le troisième membre du Shield, finalement, enfin non, des Nukes.
Des Nukes, c'est le jeune Kuro, qui en fait a été mis en tant que, qui m'a été proposé en tant que partenaire à l'APC. Et c'est un jeune talent, il est tout frais, en fait, Kuro, puisque il est arrivé à l'APC, je crois, vraiment début 2019, enfin mi-2019, où il avait catché notamment, il avait débuté pour Lucha Mania, qui est un peu le show, un des gros shows anniversaires de l'APC, parce que c'est à ce moment-là où, en gros, il y a beaucoup d'élèves qui passent au stade supérieur et qui deviennent, du coup, des lutteurs. Et c'est là, notamment, aussi, c'est à cette date-là, en fait, que c'est la fin du stage que font plusieurs élèves de l'APC avec la légende de la CMLL, Nitro.
Ah, d'accord, ok.
Lui, notamment, il avait eu la chance, en plus, Kuro, de débuter, alors pas véritablement dans un match, on va dire, si on peut appeler ça. Il a débuté contre Tristan Archer, il s'est fait rétamer en 2-2, et il avait déjà, à l'époque, montré qu'il avait énormément d'énergie, il avait besoin d'être canalisé, et c'est pour être canalisé que la direction de l'APC s'est dit que c'était une bonne idée de le foutre avec moi. Ce qui s'est avéré être une bonne idée, puisque depuis, on a paumé quasiment tous nos matchs à l'APC.
Une losing streak.
Une losing streak qu'on a pété quand on a fait les enregistrements APC Résistance pendant la période sombre du Covid, où justement on avait réussi à battre Delia et Mariana, certains diront grâce à l'aide de MBM et Ultima Sombra, mais seuls les gens qui ont payé la VOD pourront le confirmer. Moi, je dis juste que le tombé s'est fait et j'ai rivé les épaules de Mariana et on n'en parle plus.
Ouais, c'est... Alors du coup, vous formez un trio, ça, alors tu vois, c'est intéressant. Moi, c'est cher à mon cœur parce que j'aime beaucoup le catch mexicain. Et voilà, c'est sympa qu'il y ait un trio comme ça français. Donc tu me dis que vous êtes susceptible d'être booké à la Rix, que je suis aussi la Rix Intrépide, qui est un truc assez neuf et assez fresh. Et donc c'est plutôt sympa. Et alors je voulais qu'on commence un peu par le début finalement sur vraiment ta partie catch.
Bien sûr.
Je voulais te demander finalement comment tu es venu, comment tu as commencé, les entraînements, la progression vraiment in-ring, vraiment le travail in-ring, ta partie personnage, on la développera après, mais vraiment ta jeunesse, quoi, ta jeunesse sur un ring.
La jeunesse, ça a été en fait, je l'explique souvent, c'est on a tous de toute façon été génération NT1, enfin on a tous maté les catchers à la TV, on a tous trouvé ça formidable, on s'est tous demandé est-ce qu'on pourrait faire ça un jour ou voir ça un jour. Moi, c'est développé vraiment comme ça. Puis en fait, j'ai connu des potes sur des réseaux sociaux. Dans ces potes, il y avait notamment Cross, à qui je parlais déjà à l'époque. Et c'est comme ça, après, que finalement, je suis monté plusieurs fois sur Brest pour aller rencontrer en vrai. Et à cette époque-là, où en plus, j'étais une larve, je ne faisais pas assez de sport, je faisais vraiment pas assez de choses pour justement être dans une bonne condition physique. Il y avait un show de Westcatch, je me souviens bien. Et Cross m'avait invité avec toute la bande de potes à aller voir ça. Et quand on est allé voir ça en live, moi, ça a été une évidence. J'étais, ce serait trop cool, faut vraiment qu'on fasse ça, quoi. Enfin, c'est vraiment le truc à faire, quoi. Après, en Bretagne, les promotions sont pas nombreuses. Il y a des promotions et il n'y a pas full de dates, à vrai dire. Même pour du catch français, d'ailleurs, à l'époque. J'avais West Catch et...
T'avais quel âge à l'époque ?
À l'époque, je devais avoir 17 ans.
D'accord, donc c'était il y a une dizaine d'années, quoi.
C'était il y a une dizaine d'années, j'avais maté vite fait comment c'était passé. Et je ne sais plus quand exactement, West Catch avait invité Brian Kendrick et Paul London à venir pour un show Plouane, leur plus gros show de l'année, en fait. Si tu vois un peu les...
Ouais, je connais.
Donc c'est à Plouane maintenant, s'ils refont un Plouane cette année ou l'année prochaine, c'est assuré qu'il y a 800 000 personnes quoi, dedans. Et c'est un truc vraiment énorme en fait. Et Westcatch capitalise beaucoup sur ça. Et moi j'étais venu à ce show Westcatch parce que notamment il y avait Paul London et Brian Kendrick que moi j'avais vu à la télévision, donc c'est trop cool, je me dis ça. Et à l'époque déjà, je commençais à faire des entraînements, du backyard, en fait, avec des potes sur Brest. Les potes style cross, etc. et tout. On se frappait dessus dans des jardins, des machins, on était cons. Enfin, mais ça a été, ça restait des gros souvenirs. Mais mine de rien, ça m'a aidé à me lancer pour que Westcatch, à ce moment-là, j'aille là-bas. Et en fait, Brian Kendrick et Paul London proposaient un séminaire. D'une journée complète en fait pour revoir les bases du catch, pour perfectionner ceux qui avaient besoin de se perfectionner. Et c'est à l'époque là-bas que j'avais rencontré notamment celui qui allait devenir mon futur entraîneur, Jack Spain, et des noms que je pense que tu connais pas, genre Damien Baron,
ouais, c'est forcément
Rautier, etc. Donc c'est des noms qui luttent plus maintenant, mais à l'époque, j'étais venu voir le stage. J'avais même participé au stage parce que, en fait, finalement, j'étais jeune, j'étais fougueux. J'étais, vas-y, on va essayer de faire ça et tout. Je me fais mettre KO comme une merde dans le ring, mais je tiens la route et je reste jusqu'à la fin du stage. Et c'était un gros souvenir. Il me semble, c'est vraiment le premier gros entraînement de catch que j'ai pu faire de ma vie, quoi, finalement. Et suite à ça, je fais quelques entraînements avec Westcatch encore et je pars sur Brest. Je m'installe sur Brest pour faire des stages de fin d'études, ce genre de choses. Vraiment, parce qu'au départ, moi, j'habite à Saint-Nazaire, vers Nantes, donc c'est à 3 heures de Brest, un peu en Pays de la Loire. Et je m'entraîne sur Brest et au même moment... l'ancienne promotion brestoise change de nom et change de propriétaire, et la NWC se crée pile à ce moment-là, quoi, en fait.
Okay.
Et c'est à cette même période, du coup, que je fais mes premiers shows, que je fais mes gros entraînements, mes premiers shows. Et,
alors, les premiers entraînements, les premiers bumps, ça donne quoi ?
J'ai aucun souvenir. J'ai vraiment aucun souvenir de trucs.
Après les commotions cérébrales directes.
Oui, j'ai dû perdre une trentaine de neurones et tout avec ça. Mais l'avantage qu'on a en France, surtout, c'est que pour apprendre les bases, véritablement, il n'y a aucune mauvaise école. Parce que j'ai eu la chance ensuite de partir un peu partout, voir la PC qui est très rodée au niveau de son système de formation. En Essonne, à Lyon, à Bordeaux, dans le Nord, un petit peu partout en France, j'ai pu voir que en fait, le système était assez bien fait pour des catcheurs qui voulaient débuter et juste faire leur première chute. On était assez sécuritaire sur ça. beaucoup. C'était pas genre les reportages qu'on pouvait voir sur les France Télévisions, etc., où ils montraient justement les dangereux entraînements de catcheurs qui faisaient catcher, tu sais, des gamines de 4 ans ou des gamins de 8 ans, à leur dire, venez, faites des chutes. Non, là, je suis arrivé à une très bonne période où justement il y avait un encadrement qui était très bien fait autour de ça, quoi. Donc, ouais, non. Les premiers bums, je crois, j'ai pas de mauvais souvenirs finalement par rapport à ça. C'est plus quand tu te blesses et que tu dois revenir pour refaire ton entraînement et les chutes, que là, ça me marque beaucoup plus parce que justement, tu as cette perte d'habitude. En fait, moi, personnellement, moi, je me souviens pas, par exemple, tu vois, ma première fois où j'ai fait du vélo, toi. Mais je sais que, par exemple,
D'accord.
si j'arrête depuis très longtemps d'en faire et que genre, disons peut-être 5-6 ans et que après d'un coup je dois m'y remettre et que je me casse la gueule, là je m'en souviens pendant des lustres et tout. C'est vraiment des souvenirs lointains, tu vois, ces premières chutes. Je les ai pas gardées en tête.
Alors,
Et puis.
tu as commencé à progresser, tu as commencé à être booké et tout ça. Et donc, là, on arrive au personnage. Comment le personnage est arrivé? Comment Ravage est né?
Alors Ravage, c'était mon pseudonyme sur Internet pour parler avec les potes. Et tous les gus, à ce moment-là, tu t'imagines énormément, tu fais beaucoup de fantaisie, tu t'imagines énormément en disant, voilà, tu vas être beau, tu vas être grand, tu vas être musclé, et tout, etc. Mais il suffit pas de le dire pour l'être. Et moi, j'étais loin de l'être. Et c'était. J'en parle souvent de ça, mais c'était à un moment où j'avais aucune idée de ce à quoi j'allais ressembler véritablement. Moi, personnellement, le personnage de Ravage, au départ, ça devait vraiment être juste moi. Et actuellement, c'est encore toujours un peu moi, mais comme beaucoup de catcheurs le disent, c'est notre personnalité, mais fois 10, tu vois, t'augmentes le volume à fond. Et pour l'aspect, véritablement, en fait, c'est parce que j'accompagnais mon petit frère à un quick et il avait eu un cadeau, un masque de Power Rangers doré. Et je trouvais le design trop stylé. Du coup, j'ai demandé à ma maman de me coudre un masque. Et le premier match que je fais, c'est avec justement ce masque cousu à la con que je porte sur la tronche, qui est le seul truc travaillé de la tenue. Parce qu'à l'époque où j'ai fait mes débuts dans le ring, du coup, c'était en 2016. Où j'affrontais un très bon collègue du nom de Marshall, qui est un gros lutteur de la NWC, un gros lutteur en Bretagne. À l'époque, en 2016, du coup, bah, je catchais avec ce masque un débardeur noir dégueulasse et comment ça s'appelle, un pantalon doré de déguisement, tu sais, des trucs de
Soirée
funk,
disco.
de soirée disco et tout.
Soirée
Et le
disco.
look est dégueulasse, enfin, c'est pathétique, mais je m'étais dit déjà à l'époque que je pouvais pas juste arriver et faire mes débuts et être juste soit en slibard, soit être en jean, t-shirt, etc. Genre, de toute façon, il fallait que j'arrive déjà à me démarquer. Et c'est peut-être justement grâce à ça que j'en ai suivi ensuite les tenues que j'ai pu faire au fur et à mesure, etc. Et au look que j'ai maintenant, quoi, en fait.
Alors voilà, maintenant, est-ce que tu peux décrire à nos auditeurs ton look actuel? Alors évidemment, ça sera un peu spoilé puisqu'il y aura ton image sur la vignette, mais voilà, donne-nous un peu de. Faisons travailler l'imaginaire.
De bas en haut, nous commençons déjà avec. On commence un peu avec, tu sais, cette forme triangulaire d'étoiles noires, en fait.
Ouais.
Et c'est vraiment en fait le design que j'avais vu du masque de
Ton
Power
masque,
Rangers où je l'ai.
il est en cuir?
Alors, cette partie centrale, c'est une partie en cuir. Je saurais pas trop dire si c'est vraiment du cuir pur, ça va être un simili, genre de choses. Après, ça reste un masque classique qu'on peut retrouver pour les masques de Luchador en fait maintenant.
Ok.
C'est une matériau, c'est de latex, enfin, j'en sais trop rien et tout. Et genre de petites moustaches qui se dessinent, où en gros, ça devait être, comment dire, sur les masques de Power Rangers, c'est tout est à plat en fait, tout est accroché au masque et il n'y a rien qui dépasse. Moi, je me suis dit, ça c'est marrant et tout, on a juste à tout décoller et puis ça fait un look vraiment ridiculement con, quoi. Et dorénavant, maintenant, je chopé des oreilles de Pikachu que j'ai collées au dos de mon masque.
Ah, ça va faire plaisir à notre chroniqueur Raphaël. Raphaël et je crois, est un ami de Pikachu.
Ouais. Bah, après, pour le coup, aucun Pikachu n'a souffert. Il s'agit effectivement de Pikachu qui sont morts de cause naturelle.
Ouais, d'accord, il n'y a pas de maltraitance.
Il n'y a pas de maltraitance pour les Pikachu, effectivement. Quoi.
On
est nukes, mais on a le respect de la vie animale.
Ok, c'est parfait. C'est parfait. C'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble du catch français et pour l'ensemble des Pikachu de cette planète.
Ah oui, on est vert, mais nous, on est surtout jaune et orange et dégueulasse aussi.
Alors, justement, maintenant que tu as quitté ta tenue dégueulasse, quel est le reste du gear de notre ami Ravage ?
Tout dépend des périodes. Toi, de ce que tu dois te souvenir, c'est que j'ai voulu inaugurer cette nouvelle tenue.
NXT, un petit peu NXT.
NXT, ouais, les couleurs NXT, Next-Gen. Et je suis désolé de t'apprendre que ça va être sûrement la dernière fois en plus que je porte ce putain de haut, parce que les épaulières, c'est stylé, mais ça me flingue les bras. Et n'est pas Justin Liger. je ne suis pas Justin Liger. Et je pense que j'adopterai plus un look classique dorénavant, un peu le look que j'ai pu avoir notamment lors des shows Rix Intrépide, où je vais lutter avec un débardeur le temps que mes 85 kilos de viande, de graisse, deviennent des 85 kilos de viande et de muscles.
J'ai vu ta tenue à la Rix.
Oui. Donc, pour le moment, pas grand chose de fifou. Un t-shirt et un collant. Enfin, on appelle ça un collant. Alors... ils appellent ça plus un pantalon, un tight en anglais, au départ doré. Avec
un ancien comme moi, il y a un collant de catch, ça passe bien.
Ouais, moi, j'ai au départ, moi, c'était pas un des trucs qui me choquait. Puis après, quand on parle un peu à Tantoin, j'ai dit, mais collant et tout, ils ont l'image du collant, tu vois. Du coup, toi, t'es obligé de leur dire, non, mais c'est un collant, c'est un pantalon. c'est autre chose, c'est un peu plus épais, c'est moins voyant et tout.
Tu catches en bottes?
Avec des pads, des kick pads.
Avec des kick pads,
j'ai des chaussures. J'ai des vieilles bottes de lutte dégueulasses. Datent, je crois, de 2000. Elles sont aussi vieilles que mes débuts. Quoi. Elles doivent avoir 5-6 ans, quoi, maintenant, bientôt. Quoi. Donc, j'en ai aucune idée. Mais enfin, elles vont sûrement bientôt rentrer là. Mais dès qu'on refera les tournées un peu des shows, j'espère sous peu, quoi.
Ouais, parce que la situation a été quand même compliquée pour le catch mondial et français de toute façon. Il n'y a quasiment pas eu de show en 2020, hormis la Wrestling Pro Essonne, coucou. Et là, 2021 repart, pour le catch français, ça repart. Du coup, comment tu travailles à l'heure actuelle ?
À l'heure actuelle, en fait, ce qui est très triste pour nous, mais après, c'est le respect des règles sanitaires, on est obligé de tous s'y plier. Et comme en fait, pour les plus petits noms, comme entre nous, en fait, comme moi je suis pas un nom en France, clairement je suis pas Tristan Archer, Senza, Aigle Blanc ou genre.
Oui, bien
genre
sûr.
De gars ultra talentueux, on n'a pas accès en fait véritablement à un entraînement au plein potentiel, quoi. On peut pas s'entraîner sur un ring, on peut pas faire d'entraînement au gym, donc c'est un peu l'entraînement tout seul, quoi. Donc moi, pour essayer de maintenir un peu une forme physique, j'essaie d'aller courir le plus souvent possible. J'ai des poids, j'ai des programmes pour essayer de me maintenir en forme, je crois que je dois laisser depuis novembre dernier, quoi. Donc on essaie de se maintenir comme ça pour mentalement même, tu vois, pour soi, quoi, en fait, parce que simple laisser aller de une ou deux semaines et puis tout ton travail est réduit à néant et tout, donc tu dois repartir de zéro, en fait.
Alors là, quand tu bosses en fait avec des gars là à l'heure actuelle là sur des matchs et tout, comment ça se prépare finalement ce match avec c'est des gars avec qui tu as eu le temps de t'entraîner, ou des fois c'est un peu à l'arrache et puis on improvise un peu comme ça, comment ça se
passe ? La plupart des gens avec qui si cette année j'ai les shows auxquels je pense, il y a des shows qui doivent bientôt être annoncés, ce genre de choses. La plupart des personnes que je risque d'affronter je les aurais jamais croisés sur un ring, quoi.
D'accord. Ah, ok, ça va.
Ou alors très peu de fois, et on n'aura pas eu le temps de s'entraîner de son côté ou de juste faire quelques drills ou échauffements avec la personne. Non, c'est très limité. Puis même avec les conditions sanitaires, c'est ce qu'on avait reçu un peu comme sentiment avec les enregistrements d'APC Résistance notamment, ou même de Rix Intrépide, c'est que on essaie quand même de faire gaffe parce qu'on peut être très nombreux à des enregistrements, malgré les faits qu'on puisse garder des fois des distanciations sociales entre certains de nos groupes, ou avoir le masque, ou les trucs comme ça. Donc moi, t'imagines bien, j'ai double masque en plus, donc c'est dégueulasse. malgré ça et tout, on essaie quand même d'éviter de foutre notre sueur et toute notre bave partout sur le ring, quoi, en fait. Donc on est obligé, même là, des enregistrements comme ça, de se limiter un peu, nous, tu vois.
Ouais,
et,
ouais.
C'est normal. Et après, en fait, c'est un peu aussi la réalité après du catch, normalement, en fait. En temps normal, les professionnels sont même pas censés, en fait, vraiment s'entraîner avec leur adversaire. Et on leur dit, tu vas affronter tel type, ok, ils vont dans le ring, et en 5 minutes, c'est bon. Même avec devant le public, et ils font le match à soi et tout. Normalement, un professionnel est censé marcher comme ça, quoi.
T'as catché la plus grosse foule devant laquelle t'as catché, c'était combien de personnes, l'audience?
Je crois que c'était... Ça me revient pas. J'ai toujours fait des très petits shows. Je suis en train d'essayer de me souvenir. Ça devait être peut-être des foules style Paris Manga, tu sais.
Ah oui, d'accord.
Avec beaucoup, beaucoup de monde qui viennent, qui tournent, etc. Il y a peut-être moyen que j'ai eu un gros public lorsque j'ai lutté, alors surtout dans le Nord, à la CACC, parce que la CACC ont un public très fidélisé, très familial. Et c'est ultra agréable de lutter devant une foule comme ça parce qu'ils sont réceptifs à tout.
Ah ouais, tout, ça c'est cool.
C'est très cool, ils sont très gentils. La CACC en plus, du coup, ce lien très fort avec les fans qu'ils ont entendu pendant très longtemps. J'ai vu qu'ils allaient d'ailleurs relancer des shows dans pas longtemps. Je ne sais pas si c'est des enregistrements ou si ça va être des vrais shows devant un public en dehors ou je ne sais où. Mais il y a moyen que la CCC, dès qu'ils se relancent, par exemple, en plein été, si le Covid n'est pas au rendez-vous, que la CCC, ça marche très bien et que ça fasse beaucoup de bruit, par exemple. Ouais. J'ai dû lutter aussi devant beaucoup de personnes quand j'ai fait mes débuts en Belgique. J'ai lutté en Belgique une fois pour le compte de la FWF, qui est une promotion qui... je sais pas où est-ce qu'elle est basée en Belgique. C'est du côté flamand. J'avais lutté notamment devant... Petit ange, Ace Angel, et je sais pas combien il y avait de personnes, mais il y avait beaucoup de monde, je me souviens, là-bas, parce que
donc,
c'était un show qui avait atterri, qui avait notamment eu le droit à la présence de Walter, tu vois, par exemple. Donc,
ah ouais,
c'est assez stylé, quoi, de tenir
du lourd
dans un show avec Walter dedans, quoi.
C'est clair, du lourd, du très très lourd. Tu l'as approché un peu?
Ouais, mais c'est un grand Autrichien, donc... tu l'approches, tu dis bonjour, il te serre la main, tu ramasses ta main et ensuite tu t'en vas. Mais il a cette aura et il a ce respect qu'il impose direct dès qu'il arrive, mais il a l'air à la cool après, quoi.
Ah, ça va faire plaisir à notre chroniqueur Ringside, quoi, qui est un grand aficionado de Walter et voilà, défenseur du catch européen et du catch français aussi d'ailleurs. Alors, j'avais encore deux trois petites questions pour toi à ce niveau-là. C'est Ravage. La vérité, c'est quoi, Ravage? Il est heel ou il est face?
Moi, je suis. Moi, je suis moi. Hein. J'allais te faire la réponse de mes Ravages. Vous êtes mis là? Non, je suis François Hollande. non, moi je j'en sais rien, moi.
Bah, t'es utilisé comment dans ton booking?
Le booking en général, je pense que quand on va revenir à la NWC, les gens vont pas être folichons avec moi et Cross, parce que la dernière fois qu'on est apparu à la NWC avant d'avoir la grosse méga pause Covid, j'ai laté les couilles de Léon.
Un low blow.
Qu'on est un low blow, je sais pas, j'appelle ça un penalty à ce niveau-là, tu vois, un méga low blow, quoi, si tu veux. Et Cross avait fait son retour avec un beau Black Mist à la Taijiri ou à la Great Muta dans la tranche de Léon. Okay. On l'avait un peu dégommé. C'est d'ailleurs à ce moment-là, pile, que les Nukes étaient bien formés en fait. On était une autre équipe avant avec Cross. Et Cross, du coup, avait fait son retour bien comme il fallait, en éclatant Léon. Et du coup, je me suis dit, banco, on saute sur l'occasion, quoi. Léon, en plus, à ce niveau-là, on avait fait un match peut-être de 15-20 minutes, peut-être, avant, où il me bat de façon ultra nulle, en me tirant le slibard, j'en sais rien. De toute façon, tu sais, si on gagne contre moi, c'est jamais très propre, hein, de toute façon, entre nous.
Et alors, on a parlé du in-ring, tout ça, et la tenue, la foule, mais le micro. Est-ce que tu as déjà eu un peu de l'occasion de faire de la promo? Comment tu t'es senti? Comment on appréhende ça?
Jamais trop fait de promo, véritablement.
Jamais trop fait de promo.
C'est dommage parce que, en vrai, je pense qu'en plus, peut-être la dernière fois que j'ai. Ouais, voilà, c'était ça. Je crois que la dernière fois que j'ai fait une promo dans un ring, ça s'est très mal passé parce que la foule était avec moi et c'était lors du premier show de la RX. Non, c'était le deuxième show de la RX parce qu'il y avait eu un show. En intermédiaire qu'on avait fait pendant un festival et tout en décembre, donc l'expérience en plus était folle. Il y avait Jack Spain, Jean-Michel, Gustave Lebrun et un ring trempé parce qu'il faisait peut-être moins de degrés dehors, donc t'imagines même pas la galère. Et c'était lors d'un festival, c'était trop stylé. Mais c'était au deuxième show de la RX qui est annoncé comme du coup l'épisode 0. C'est chelou de dire ça comme ça, non? Un petit peu, mais c'était l'épisode 0 de la RX. Je suis allé dans cette salle de Mordel qui me tient à cœur parce que du coup pendant peut-être quasiment une année je faisais aller-retour dans la région de Rennes, notamment à Mordel et les autres salles d'entraînement pour le compte de l'EBC, l'école de Westcatch. J'avais fait une promo pour demander aux gens s'ils étaient contents de me voir ce soir-là, les gens ultra réceptifs. J'aurais demandé que s'ils voulaient me voir catcher ce soir-là, ils étaient oui, on veut te voir catcher. Et Vlatipok débarque, Jack Spain, qui me latte la gueule avec un panneau sol glissant. Et tous les gens, des potes, des gens de ma famille, et du coup, ultra choqués, qui pensaient que j'étais dévisagé. Alors qu'en vrai, ils n'en savent rien, moi j'ai un masque. Qu'est-ce qu'ils en savent?
Ouais, c'est ça la ruse.
Bah ouais, qu'est-ce que t'en sais, quoi? Ça se trouve, j'ai pas mal, ça se trouve, j'ai super mal, ça se trouve, je douille ma mère. Non, j'avais quand même eu l'œil gonflé parce que le panneau sol glissant, c'était à moitié pété et je m'étais pris quasiment un bout de plastique qui s'était enfoncé dans mon œil. Donc,
ah ouais.
C'était dans une. Même un truc qui était même pas un match, tu vois. Mais annoncé les belles couleurs pour ce fantastique match des durs à cuire que j'ai pu avoir avec Jack Spain, qui est notamment disponible sur la chaîne de Cécile Catch où. Vous pouvez retrouver d'ailleurs en plus, même si vous voulez, épisode complet de la RX, épisode 1, où du coup il y a ce match-là de dur à cuire face à Spain.
Et alors, dans ton top 5 là, des gars que tu as affrontés, c'est qui avec qui tu as pu partager le ring et t'en garderas un souvenir jusqu'à présent, voilà, impérissable?
Ouais, là, comme ça, là,
j'ai comme ça, dire... à froid, là, bim, bam, boum.
À froid, en vrai, J'ai plusieurs noms qui me viennent en tête, mais parce qu'au final, j'ai été suffisamment à l'aise avec beaucoup de gens dans le ring, que très peu de gens avec qui j'ai pas été bien dans un ring, ou j'ai pas été bien coordonné, etc. Mais là où je me suis vraiment le plus amusé, ça a été notamment face à Jack Spain, parce qu'il y avait ce côté où ça a été mon entraîneur, il a été un genre de guide avec beaucoup d'idées, beaucoup de choses novatrices. C'est un fou furieux aussi, c'est pas Joel rigolo, tu vois. Il a fait beaucoup de matchs hardcore, beaucoup de matchs à stipulation pour le camp de Westcatch. Il avait fait ce formidable match contre Jean-Yves Pépin avec des bombes de fou. Il avait fait d'ailleurs, moi, l'année où justement je te disais, j'étais venu à Westcatch faire le séminaire avec Paul London et Brian Kendrick. Et la vidéo en plus, c'est encore sur YouTube où en gros Jack Spain il s'embrouille avec Tristan Archer. Et Archer lui fait un surpassement et Spain va s'éclater en dehors du ring mais sur une putain de barrière et donc la barrière flippe et elle manque de tuer 3 personnes dans la foule, mais c'est ultra stylé. Et donc ouais, du coup je suivais en plus Jack Spain depuis super longtemps et je l'ai affronté en 2020, au tout début 2020, et ça a été un match super stylé, quoi, en plus avec des objets, des conneries et tout.
si j'ai bien compris tout à l'heure, t'as dit que t'as pris un squash de Tristan Archer aussi ?
Non, j'ai pas pris de squash de Tristan Archer. Ah. C'est Kuro qui s'était fait squasher.
Ah, c'est Kuro, c'est Kuro. Oui, c'est un de tes partenaires, ouais. Qui s'est...
Comme une grosse demeure.
Non, Kuro, si tu nous regardes, voilà, quoi, on est désolé. Hein, on est désolé que...
En même temps, désolé, mais en même temps, t'as affronté Archer. Qu'est-ce que tu voulais
faire ? Tristan Archer lui soit passé sur le corps, voilà. Alors écoute.
Mais sinon, du coup, ouais, je disais Spain très à l'aise. Léon aussi, un gars qui est assez connu, qui est franchement super talentueux. Sinon, un gars avec qui j'adore chez surtout à l'Atlas, pour le compte notamment, tu sais, pour les paris manga, etc. C'est Stan Correa. Bon Dieu, on s'éclate avec Stan Correa, je trouve. Dans tous les sens, tu vois, je trouve ça super drôle et en même temps, il fait mal ce connard. il paraît frêle et tout, mais il frappe dur. Le bâtard. Viteuf, deux noms comme ça que je peux te balancer aussi, avec qui j'étais très à l'aise aussi. Xandrain, actuel champion de l'APC, le chinois, okay. Et Cross.
Et Cross.
Cross, que j'ai affronté peut-être deux, trois fois et tout. Là, je suis pas chaud à me taper avec lui. Hein. On va se rester. On est déjà bien là ensemble, pour avancer. Si un jour on doit se retaper dessus, je sais que ça sera super, quoi.
c'est très bien, voilà. La bagarre, voilà.
La bagarre, à mort.
Tu t'appelles pas Ravage pour rien. Hein, il faut quand même justifier quand même un peu de ta réputation. Hein, donc.
Bah oui, quoi. Déjà que l'aspect, ça fait pas tout.
Il y a intérêt.
Il faut déjà que le nom il suive un peu, quoi. Après, oui.
C'est vrai que ça envoie du bois, quoi. Alors, écoute, ce qui est sympa, c'est que finalement, on a un point commun. On a été physiquement ensemble dans la même dans la même structure, dans le même gymnase, dans la même salle au Palais des Sports de la ville de Corbeil-Essonne.
Et un soir, c'est incroyable.
En 2020, il y a eu quasiment presque pas de show de catch en public, mais il y a eu cet éclair dans la fin de l'été 2020 avec ce show à Corbeil. Avec du public, alors je n'ai plus les chiffres en tête du public, je ne sais pas, je dirais 300, quelque chose comme ça.
Il me semble que ça avait été annoncé 300 personnes, je ne saurais pas te dire combien il y avait eu de personnes à l'époque.
Écoute,
et la carte était déjà en plus fabuleuse, quoi. Donc on n'avait que envie d'aller voir un show pareil. Quoi.
Et pour expliquer au peuple le catch-up, en septembre 2020, on a reçu sur You Talk Too Much, sur catch-up, El Payo, le CEO de la Wrestling Pro Essonne, et Axel, l'annonceur in-ring, pour faire la preview de ce Quality Over Quantity 2020. Suite à ça, je me suis rendu au Palais des Sports et j'ai assisté au match. Et j'ai donc pu voir ton match dont tu vas pouvoir nous parler maintenant. Donc
t'étais parce que j'étais le premier de la soirée, tu vois.
Et ouais,
comment tu pouvais bien démarrer, c'est cool. Hein.
T'étais voilà placé dans l'opener, donc tu vas nous raconter un peu ça. Alors voilà, c'était une carte. On va pas revenir sur toute la carte de Wrestling Pro Wrestling. Je me concentre sur mon invité, n'est-ce pas ? J'ai envie qu'on parle de ce qui s'est passé pendant le match. Alors le show, je l'ai vu en direct et je l'ai revu quelques semaines plus tard sur YouTube avec les commentaires de Sturi.
Ouais, avec ce sale catch et tout, donc avec un autre angle de vue et tout, t'as pu te voir vite fait dans la foule si tu voulais.
Ouais.
T'es où dans la salle ?
En fait, j'ai changé à mi-show au début du show, au moment de ton match. En fait, je suis à côté de l'entrée. Tu sais, vous descendiez les escaliers, c'était cool d'ailleurs. Ça, vous descendiez les escaliers et vous passiez la rampe et vous passiez dans le premier coin du ring, tu vois, le tout premier coin, tu vois, où il y avait les escaliers. Et moi, j'étais situé là, ringside, quoi, dans ce coin là.
Pour le coup, tu vois, après, c'était cool, mais c'est dommage qu'on n'ait pas eu assez de lumière sur nous, quoi, tu vois. Parce qu'on était vraiment dans la rampe, et en vidéo, c'est dommage de voir ça, c'est que du coup, on était dans le noir, tu vois. Il y avait des gens autour, nous, on arrivait, on était bon, bah. En vidéo, du coup, on voit ça, on fait bon, bah, on se voit pas, en fait. C'est dommage.
Ouais, c'est dommage, ouais. La deuxième partie du show, j'étais côté hardcam, en fait, par rapport au ring.
Ah, d'accord.
J'étais côté hardcam et j'étais face à Axel quand il faisait ses annonces.
Bah, t'as bien bougé, hein.
J'ai bougé un peu, ouais, parce que je voulais voir un peu tout sur différents angles. Je voulais, je voulais un peu apprécier. Et puis, j'étais très curieux du match Crimson-Duranson. Et c'était une qui a été plus que satisfaite parce que ça a été peut-être le show stealer de la soirée.
C'était le match de la soirée, ça, obligatoirement.
Ah ouais, ouais, ouais. Ce Crimson, là, ça a vraiment été un match extraordinaire.
Et, pensons, pareil, un des gars avec qui je kiffe être dans le ring et tout. Un mec ultra talentueux, ultra humble. Qui est vraiment... J'ai catché avec lui quand on avait fait les enregistrements d'APC Résistance. Et on avait fait, il me semble, je crois que c'était il y a 3 ans peut-être, on avait fait un séminaire ensemble avec Matt Cross, qui est l'actuel champion de la WPE.
Champion de la WPE, exactement.
Comme quoi, tout se rejoint. Et Matt Cross qui avait fait un séminaire à l'APC, qui était super, franchement super. Mais il y avait tellement pas de monde, et c'était tellement décevant. Mais l'avantage, c'est que du coup, on était entre... peu de gens avec qui on était, on était bien ensemble, quoi. On était peut-être 6-8, un truc comme ça. Et c'est à ce moment-là, du coup, je rencontre Durançon. Je dis, putain, mon con. Et on chatte super bien, quoi. Enfin, le gars est vraiment cool. Le catch, il kiffe ça. Il avait catché en Angleterre. Enfin, il avait fait beaucoup d'entraînement en Angleterre, notamment. Donc, franchement, une très bonne mentalité. Dommage après avec le Covid, parce que du coup, finalement, il était dans une super lancée. Donc,
Ouais.
Gros show stealer avec Crimson. Ouais, ouais. Les mecs.
Même si j'ai bien aimé le main event entre
Divi et Antoine
et la Sainte Barbe. C'était sympa aussi, mais vraiment pour moi le match de la soirée, c'est ce Crimson Durançon. Quoi. Big up à ces deux catcheurs. Maintenant, on va revenir sur toi, Ravage, et sur les Nukes. Alors vas-y, tu vas nous raconter.
Parce que pourquoi tu crois que c'était le show stealer? Parce que nous. On était un super match, tu vois, au début. On était un match de merde.
Important que sur une carte, l'opener soit de bonne qualité. Quand j'allume un Raw
ou
un Dynamite, j'attends que l'opener soit de qualité, de qualité.
L'opener, c'est un des matchs les plus importants pour une carte.
Et oui.
Pour le coup, ça a été ambitieux.
Tu vas nous le raconter de l'intérieur. Et après, moi, je te donnerai mon point de vue de l'extérieur.
Bien sûr, alors dans ce cas, de l'intérieur, l'organisation de ce match a été, je sais plus comment ça a vraiment démarré, mais il me semble que ça a été un peu chaotique. Je sais pas du tout si j'allais.
C'est El Payo qui a booké le match.
Il me semble que c'est El Payo qui nous a dit qu'on allait affronter ce groupe qui s'appelait les Originels. On connaissait pas le nom à l'époque. Je crois que le nom, on l'a appris vraiment lors du show. Nous, on était dans le ring, puis on les a entendus appeler les Originels. On était « Ah bon ?» un truc comme ça, quoi. Ouais. Je sais plus. Et ce match-là, ça a été un peu chaotique, parce que justement, c'était la période, tu disais, post-Covid, où du coup, on sortait de l'été. Malheureusement, les entraînements, pour la plupart, ont été suspendus. En septembre, on ne savait pas trop sur quel pied danser. Beaucoup étaient en télétravail, beaucoup n'avaient plus de boulot, ou beaucoup devaient travailler beaucoup plus pour justement essayer de récupérer ce qu'ils avaient perdu à cause du Covid. Et donc, on n'a jamais eu trop l'occasion en fait de vraiment savoir comment on allait organiser ce match-là. Et c'est, je crois, une semaine avant, un truc comme ça, une semaine ou deux semaines avant, on apprend que le groupe des Nukes, au grand complet, allait lutter sur le show. Avec
un match
3 contre 3, donc parfait. Quoi. Dans ma tête, c'était parfait parce que j'avais lutté avec Cross. Enfin, on voulait lutter ensemble avec Cross parce que, en tant que Nukes, on n'avait jamais pu lutter une seule fois parce que Cross était revenu en mars 2020. On a latté les couilles à Léon et tout, à l'NWC, ce genre de choses. Depuis, il y a eu le Covid, quoi. Confinement, etc. Donc Cross, il est revenu pour pause. Pour rien faire. Il a eu le temps de faire une pige à la Rix au même moment, mais moi j'avais été qu'à contact, donc j'étais dégagé à ce moment-là. Il avait dû trouver quelqu'un d'autre. Et donc c'est le premier match de Cross et moi en tant que Nukes. Et Kuro s'est ramené en fait dans le lot parce que on avait déjà fait plusieurs matchs en équipe ensemble, quoi. On avait déjà catché ensemble à la PC avec Kuro, donc on avait déjà cette chimie ensemble, ce respect de se dire on est partenaire et ce match, du coup, il se fait plutôt bien. Les adversaires, par contre, alors là, des jeunes de la WPE, Amos Dean, Molos, Pride, il me semble, le dernier. le match, en fait, il se passe assez bien et tout. Enfin, les gens sont tous très agréables. C'est très agréable de travailler avec tout le monde et tout. Enfin, on est quand même au départ quand même très impressionné parce que on voit le groupe des originels, on capte pas. Tu vois, nous on se disait bah ok, on va affronter Pride, Amos et Molos. Et là, tu vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, putain, ils sont combien, bordel ? Descendent tous vers le ring. Et du coup, bah, pour le moment, j'avoue, limite avec Cross et tout. Bah, Cross, il s'en bat les couilles, mais Kuro et moi, on était, c'est quoi ce gilet, putain. On va se faire latter, on va se faire casser la gueule dans une ruelle et tout sombre, quoi. Enfin,
un street fight.
Ouais, ça va être street fight et tout, tu sais pas trop. Finalement, non, 3 contre 3. On gagne contre les originels.
Oui.
Et oui. De façon en plus assez spectaculaire, puisque du coup, on place une FTR, je sais pas comment on s'appelle, le finish des Revival. Là, on va l'appeler le New Kizator, tu vois, si tu veux.
Voilà. Ah, bah, pas mal.
On place un New Kizator sur Amos. On se dit, bah tiens, Cross, il a rien foutu, Google. Vas-y, saute la troisième. Frog Splash avec les genoux, avec les coudes, avec tout son petit corps, mais le sale nuke fait le tomber. 1, 2, 3, on bat les originels, c'est beau. On se casse du ring parce que les 7 ils reviennent, donc voilà quoi. Puis après, on vient tranquille en backstage, et puis après, on n'est plus là de la soirée quoi. Et c'est ça le délire un peu chelou parce qu'on apprend plus tard qu'il y a un match pour les titres par équipe de la WPE. Avec toutes les équipes qui étaient bookées sur le show, et Vlatipa qu'on n'est pas dedans, alors qu'on a battu les originels en plus. Mais ça, c'est la suite de l'événement.
Ah, le New Kizator, j'aime beaucoup. Il faut le garder.
New Kizator, et surtout avec la rage en plus qui vient juste après. Donc, c'est tombé quoi. Le show, on l'a bien débuté. Je t'avoue, nous, on l'a mal fini. Hein. On l'a mal vécu parce qu'on se disait, attends, un match pour l'équipe par équipe. Ah oui, putain, c'est vrai. En plus, j'avais fait des petits montages à l'époque, j'étais très content parce que je suis connu pour faire, notamment pour les réseaux sociaux, je fais beaucoup de photos, beaucoup de montages aussi.
Ouais.
Et des conneries parce que je maîtrise un peu le logiciel de graphiste, tu vois. Viens là, petit chacha. Il y a mon chat qui vous dit bonjour. Mon chat aime la voix du tonton. Mon chat aime Ketchup.
Ah, voilà. Votez le chat de ravage.
Voilà. Et non, la soirée, on l'avait bien débuté. Puis après, quand on a vu qu'il y avait les titres par équipe pendant le show, on n'a pas trop capté, quoi, en fait. On s'est dit, mais attends, on n'est pas là. On n'est pas dans le match, quoi.
Ouais. Ah ouais. Ah ouais, vous voyez.
On l'a pas bien vécu, tu vois.
Ouais, j'imagine, ouais.
On a bien fait la gueule.
Ouais, vous n'avez pas eu droit à un title shot, quoi. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu frustrant dans une carte comme ça, surtout sachant qu'il n'y a quasiment pas de show, il n'y a pas eu de show de l'année.
Donc sachant que les originels gagnent ce match et que nous on bat les originels juste avant, donc justice.
Ouais, c'est vrai. Non, mais t'as carrément raison en termes de cohérence de booking. Là, effectivement, ça passe pas trop quoi. Mais bon, écoute, moi je vais te donner mon avis de l'extérieur. Je te confirme le fait de la lumière. Effectivement, vous êtes rentré dans une ambiance avec une lumière très faible. Et ça peut-être ça gâchait un peu, mais par contre c'était sympa l'impression visuelle justement de vous trois sur le ring et l'arrivée de ces originels là en masse, et où on se dit oula, ça va commencer d'entrée par une grosse baston, et ça c'était plutôt pas mal. J'ai trouvé ça, après j'ai trouvé le match plutôt de bonne qualité. Par contre, toujours sur un plan visuel, moi il y a un truc qui m'a posé problème et qui m'aura posé problème en fait pendant tout le show, c'est l'arbitre. L'arbitre était beaucoup trop grand, beaucoup trop grand. Quand t'as un arbitre qui est plus grand que quasiment tout le plateau de catcheurs réunis, ben le rendu, et après à la vidéo, j'ai trouvé que c'était encore c'était
très marquant. Flagrant, j'imagine. Bah oui. C'est un peu atténué par
la lumière et tout sur la vidéo. Par contre, à le vivre en live, écoute, j'avais ce grand type. Alors il était pas mauvais, l'arbitre était sympa, il a fait quelques passes et tout. Voilà, il a chopé les mecs dans les souplexes et il s'est fait choper. Il était dans son rôle d'arbitre, il n'y a aucune mise en cause, tu vois, il a fait du super taf, quoi. Mais par contre, le mec, putain, c'était un pivot de basket, quoi. et le mec, il était plus grand que tout. C'était le homos du wrestling pro Essonne de la soirée, sauf qu'il avait le maillot de l'arbitre sur le dos, quoi.
Ah bah oui, mais ça, c'est notre cher Alexandre Schneider qui est... Un très bon arbitre en plus, il est très sérieux dans son rôle. Mais le problème, c'est pas qu'il est trop grand, c'est que tous les catcheurs français sont trop petits. c'est une autre vision du truc. Quoi. Là... Même moi, avec mes 1m80, c'est compliqué, quoi.
celle-là, elle est dans la boîte, peuple du catch. Oh, ouais. Regardez-la, ça va... elle sera citée aux Awards 2021, je pense.
Bah oui, tous les catcheurs français sont trop petits. C'est pas grave, après. Mais, dans tous les cas, l'arbitre est plus grand que nous. Je te dirais que c'est un mal pour un bien, parce que, justement, l'arbitre, il est censé aussi se faire respecter. Et personnellement, que ce soit Artemis, qui est une grande arbitre française, qui est maintenant du côté UK, ou Alexandre Schneider, c'est deux personnes avec qui j'ai pas envie de m'embrouiller, tu vois. Ah, vraiment, même en tant que Nukes, tu vois, je lui crache dessus, ou je lui dis « Oh, t'es un arbitre de merde !» Il se retourne, je lui fais « Ouais, mais... » faire tes lacets si tu veux.
Ouais, non, effectivement, mais c'était l'impression visuelle, si tu veux, en étant dans la salle, quoi. Et au final, et bah, écoute, cet opener, moi, il m'a enjaillé. C'était cool, c'était fun. Effectivement, votre finisher, sympa. Enfin, j'ai pas grand chose à redire sur le match. Vous êtes débordé en infériorité numérique, ça se transforme quasiment en handicap match par moment. Mais, ah ouais. Mais vous défendez. Avec honneur et...
bah, on fait comme on peut et les Nukes,
et vous
ça reste des ratés.
Donc... Et vous gagnez le match. Et justement, en fait, tu parlais du fait que vous n'étiez pas booké sur le title shot des ceintures par équipe parce que, eh ben, écoute, je te rejoins sur l'impression du moment, de l'instant, et j'ai bien cru, moi aussi, que vous alliez revenir, en fait, sur ce fameux match, puisque je me suis dit, là, ça va être un match pareil à plusieurs, etc. Les mecs qui ont gagné l'opener, bah, j'imagine que c'est une tag team qu'on va revoir après. Et en fait, effectivement, bah, vous apparaissez pas. Donc, voilà.
C'est bizarre,
absence des Nukes sur le title shot du tag team. Bon, écoute,
après, je t'avouerai, on était très loin aussi. Hein. On était partis essayer de boire des coups, des trucs comme ça.
Ah, ouais.
Donc, après, c'est vraiment au plein match. On a regardé le match, on fait, c'est pas mal et tout. Et c'est quand on écoutait les gens pour parler, ouais, c'est championnat par équipe. On était, quoi? C'est championnat par équipe, on n'est pas dedans. T'imagines bien que bah, le temps qu'on essaie de remettre nos tenues, etc., bah, c'était la merde. Hein, c'est le match est fini. Et puis, qui gagne le combat, quoi. Donc, dégoûté.
Et oui.
On fait la gueule. Et après, t'as Duranson contre Crimson et Mike D contre Anton Barnard. Et là, t'es Ah, je suis content.
Oui, exactement. Ouais, et c'est bien parce que si tu veux, comme ça, tu présentes un peu la frustration que peut générer du booking, que ce soit dans n'importe quel fédé de catch au monde, de toute manière. Et voilà, pour tous les gars qui participent à la carte, quand il y a tel ou tel match avec un peu plus de prestige, avec une ceinture, avec une breloque, tout de suite, c'est vrai qu'on a envie d'y être et je comprends tout à fait ton sentiment, quoi. Mais du coup, et ton ressenti par rapport au public à Corbeil, le fait voilà, de retrouver du public dans cette période Covid, là, c'était quoi le sentiment,
oh
là,
là, là, oh là,
quand,
là.
Quand t'es rentré sur le ring, là, dans l'escalier, puisque vous,
oh là
à la manière du Shield. À la manière
oh là là, tonton, t'imagines même pas. Ça fait un bien fou, tu vois.
Ah,
surtout
oui.
À ce moment-là où justement on n'a plus de show depuis mars, tu vois. En mars, après, t'as le confinement. On dit bon, vous allez arrêter. Tu fais bon, ok, on va arrêter. Et tout. Il y a le Covid, c'est la merde. Agnès Buzyn, elle donne des flyers dans les aéroports. Il y a les autres qui font de leur mieux. Ils se disent ouais, t'inquiétez pas, c'est une grippe, nanana, etc. Mon cul.
Agnès Buzyn, elle donnait des flyers de l'Arix dans les aéroports.
Elle aurait pu, hein, franchement, ça aurait fait une meilleure pub, ça aurait mieux marché, tu vois, la prévention Covid, tu vois. Les gens, ils seraient tous allés à l'Arix. Spain, il aurait dit je vous emmerde. Et ça aurait été. C'est le Covid, on n'en serait pas là, tu vois. Tout le monde, tous les gens qui... Qu'est-ce que tu veux, toi, Michel ?
La Rix au ministère de la Santé.
Le Rix au ministère de la Santé, totalement. Cyrano, Premier ministre. Mais non... Merde, de quoi on parlait ? Putain.
Ça y est, on a perdu le fil.
Non, on va le retrouver, le fil.
Ah, mais on parlait du booking, de tout ce qui se passait. Voilà.
Ah oui, le public.
Et voilà,
oh
et par rapport au public qui. Voilà, voilà,
le public.
Retour
depuis,
au public.
Mars 2020, les shows en huis clos, c'est cool. Et c'est sympa à faire, etc. Tu vois. Ou même avec des publics un peu plus restreints. Mais le problème, c'est quand tu fais des shows style enregistrement, c'est quelque chose de complètement nouveau pour moi. Et. Ça a été aussi, comme j'aime bien le dire, c'est un mal pour un bien, tu vois, parce que les enregistrements, c'est des styles, tu regardes la WWE ou tous les shows actuellement qui tournent, ça marche que comme ça, quoi.
Ouais.
Je fais que des enregistrements. Et puis même à l'époque où il y avait déjà du public qui était à la WWE, leur show, il marchait exactement comme ça, dans ce style promotion, enregistrement. Donc, tu es bien calibré, tu fais bien tes trucs, pas, tu dépasses de, pas de délai, etc. Tu as un sérieux qui est établi. Mais ce sérieux établi, si tu n'as pas en plus de public à côté pour avoir savoir ce que, si ce que tu fais, c'est bien ou pas, tu es quand même assez limité. Alors que là, oh putain, public et tout, cette grande salle dans ce grand gymnase de Corbeil-Essonnes, ça a fait un bien fou. Vraiment, c'est à une réception, des gens qui gueulent Nukes, parce que tu te dis, ok, on a créé les Nukes, est-ce que ça a marché? Est-ce que les gens, ils vont capter? Parce que moi, je suis très présent sur Internet, mais comme on aime bien aussi le rappeler, c'est pas forcément tous les gens qui sont sur Internet qui vont voir les galas de catch.
Exactement.
Mais, après une grosse absence comme ça, même en tant que fan Internet ou fan de catch de base, t'as qu'une envie, c'est de quand même aller voir des catcheurs se foutre sur la tronche, se foutre des bourre-pifs dans la miche, tu vois. Là, t'as juste envie, t'as envie de gueuler, t'as envie de faire sentir ta présence. Et nous, on l'a super bien reçu. Hein. Moi, je l'ai super bien ressenti, en tout cas. Ah, c'était super plaisant. Entendre ouais, Nukes, Ravage là, etc. Enfin, la totale, c'est trop bien. Et tout.
Ouais, il y avait 300 personnes, ça a fait quand même du bruit, c'était quand même ça, c'était plutôt sympa. L'ambiance était bon enfant. C'était cool. Donc
il y a eu une bienveillance en fait même envers les gens et tout, parce que la plupart en plus des matchs étaient très bons quoi pour le show WPE Quality Over Quantity, il a bien porté son nom, tu vois.
Oui.
Mais il y a eu des matchs qui pouvaient être très longs et les gens étaient très bienveillants, ils sont restés jusqu'au bout pour tous les matchs et c'est formidable quoi en fait. Ils ont vraiment apprécié le tout, ils ont même adulé une putain de poupée gonflable quoi. après les gens ils étaient absurdes quoi, c'est bien.
Du coup t'as droit à une belle exposition parce que la WPE met en ligne sur YouTube avec des commentaires de Sturi.
L'aide de Sturi qui met vraiment bien en avant aussi le catch français et ça a été pendant la période vraiment une super aide de sa part parce que t'as pas besoin de le faire en plus, tu vois. Il a été booker chez West Catch, tu vois. Et du coup, je l'ai vu travailler en tant que préparateur booker chez West Catch. Et je l'ai vu même à la fin où il était exténué. Quoi. En fait, ça lui a trop pris, il en a trop fait. Il n'a pas eu assez de recul, il avait besoin de faire sa pause. Tu vois. Mmh. Et dans ma tête, quelqu'un qui est dégoûté à ce point-là, quand tu es dégoûté de quelque chose, disons genre par exemple, tu prends des... Genre tu bouffes tout le temps du chocolat. Tu, vois. tu manges tout le temps du chocolat, tu adores le chocolat. À un moment donné, tu te dis, je vais me faire une journée, je vais faire full chocolat. Tiens, vas-y, on est Pâques. Bon, je vais prendre des Kinder, je vais prendre la totale, je vais prendre le lapin doré, du Lean, du Milka, la totale. À la fin, normalement, si dans ta tête, tu n'es pas dégoûté, ton corps, il va te dire que t'es à bout. Quoi. Et si tu ris pour le catch, c'était ça, tu vois. Je pense qu'il s'était mis beaucoup trop de pression, il y a eu tous les catcheurs qui demandaient des trucs à droite à gauche et tout, ils étaient ouais t'es sûr que j'ai gagné le match, etc. Et comment je dois rentrer, comment je dois faire les trucs. Celui il était au bout de sa vie, il avait ses sales catchs qui marchaient super bien et il s'est dit il aurait pu très bien se dire comme beaucoup de monde l'aurait fait, c'est bon là, le catch français j'ai assez donné, vas-y basta, je vais faire autre chose, tu vois. Ben non. En période Covid où il a vu que tous ses anciens collègues ils étaient dans la merde, il n'y avait plus rien du tout. Il a donné à WPE le moyen de montrer son show au plus grand nombre. Il m'a permis, moi, de pouvoir vendre des t-shirts ou des designs parce que, justement, pendant cette période-là, on ne peut rien faire. On ne pouvait même pas s'entraîner. Même encore actuellement, tu vois, on ne peut pas s'entraîner. Mais le seul moyen pour moi d'exister, c'est d'essayer de parler avec les gens sur les réseaux sociaux. Parce que je vais pas venir demain chez toi et tout pour essayer de taper une discute et prendre une bière dans ton salon. Hein. C'est un peu loin et puis si je fais ça avec tout le monde, je risque un peu de canner quoi, tu vois, à la fin. Et du coup, il m'a permis de faire ma petite promo, tu vois, sur les réseaux sociaux, tu vois, pareil. Enfin.
Ouais, j'ai vu. T'as pas mal de followers sur Twitter et puis on sentait. Si tu veux, moi, c'était la première fois que je te voyais catcher à Quality Over Quantity. Et quand vous êtes rentré les Nukes, voilà, il y avait plein de gens dans la salle qui connaissaient, qui chantaient Nukes. Vous avez bien rempli votre rôle de babyface finalement, parce qu'il y avait quand même une méchante faction qui débarquait et qui voulait vous casser la gueule. et vous avez été bien supporté et tout, donc c'était cool, ça créait une ambiance. En plus, si tu veux, t'imagines frustré de public de catch depuis des mois et des mois, avec un, après avoir vécu un WrestleMania 36 dans le désert du son, si tu veux, tout d'un coup se retrouver dans un catch en plein Corbeil, en plein 91, avec du monde qui tape dans les mains et tout, bah c'était cool quoi. C'était fun. Oui.
C'est super fun. Et puis pour le public, ça les amuse. Et pour nous, ça nous amuse énormément quoi.
C'était une des raisons pour lesquelles aussi je tenais à t'avoir avec nous là.
Ouais.
Mais j'ai bien senti que voilà, le kiff était là, que vous preniez du plaisir. Et c'est bien là l'essentiel. Et c'était bien parce que je pense que vous avez fait plaisir à tout le monde ce soir-là. Et ça a été un petit peu, tu vois, une petite lumière dans les longs mois qu'on durait après derrière. Et on espère que le Quality Over Quantity 2021 sera d'aussi bonne qualité que les deux premières éditions.
Il n'y a pas d'annulation, il n'y a pas de doute que ça se passe mal, tu vois, pour Quality Over Quantity 2021, tu vois. Juste que ça ne soit pas... des annulations, des machins, etc. Enfin, le truc un peu quotidien maintenant qu'on vit depuis quasiment 2 ans, quoi.
Ouais. Maintenant, alors, on est un peu rodé, mais bon. Du coup, là, on a fait un bon gros survol de tout ce que tu as fait et ce que tu fais actuellement, quoi, en tant que catcheur actif, quoi. Et j'ai envie de te poser un peu la question sur qui est le fan derrière Ravage, c'est-à-dire Ravage, bah, qu'est-ce qu'il consomme comme catch? Quels sont les fédés que tu suis assidûment? Est-ce que tu piques des trucs? Oui. Est-ce que de tout ce que tu vois à la télévision ou derrière les écrans, est-ce que tu vas prendre tel ou tel truc, tel ou tel tic, tel ou tel prise d'un cadre
bah, oui.
que tu suis comment tu
bah, vois, ça là, je vais direct te le dire, mais
quel est ton relationnel finalement avec le catch mainstream?
Bah, je vais te dire direct, mais de toute façon, enfin, déjà pour commencer, un catcheur qui te dit non, j'ai rien volé, tout est de moi, etc., je suis original, ça n'existe pas.
Hein. Non. À la limite, bien d'accord.
Le seul vrai catcheur que j'ai vu d'original jusqu'à présent, on va dire, c'est Jean-Michel, tu vois. J'ai pas vu de personnage comme Jean-Michel depuis super longtemps. C'est un cas atypique parmi tant d'autres, tu vois. C'est un formidable talent qui s'est développé sur lui parce qu'il a travaillé vraiment. Plus sur lui-même que pour le catch véritablement, on va dire. Il a vraiment développé son identité à partir de ça. Mais sinon, globalement, on est des baltringues, tu vois. On pique tout. Oh la vache. Oh, on pique tout, quoi. Enfin, laisse tomber, quoi. Senza Volto, il fait des Shooting Star Press. Aigle Blanc, il fait des 450. Antoine Bernard. Il a une barbe. Tout le monde a une barbe, tu vois. sans déconner. Mais moi, après, tu vois, pour le coup, je suis un très gros fanat et un gros consommateur de catch indie, de comedy wrestling. Ça a été vraiment, pour moi, toutes les vidéos qui passaient sur YouTube où, en gros, tu avais des fans de catch indé qui postaient des petits clips, tu vois. T'avais la PWG à cette époque-là, en plus, qui commençait à bien péter, et qui avait toujours un petit peu leur spot fun et tout pendant les shows, etc. Mais en même temps, t'avais des gens qui sortaient des petits clips de vidéos, où, par exemple, tu voyais Cole Cabana qui va justement se foutre de la gueule d'un catcheur pendant qu'ils font des courses dans les cornes, la grenade de Chuck Taylor, la fourmilière de la Chikara, tu vois, Green Ant, Fire Ant, tous ces trucs-là. Toute la technicité même de Quackenbush, enfin... des trucs de débiles, mais c'est formidable, tu vois. Et moi, du coup, j'ai consommé ça direct, j'ai tout bouffé. J'ai fait, ah, vas-y, balance-moi tout ça.
Et, quelle année, ça c'était c'est dans quelles années que tu suivais ça?
Ça a été peut-être 2013 à 2016, enfin 2017, 2018 même, enfin quand je commençais à lutter même, tu vois. Mais des jeunes années. J'ai pas regardé assez longtemps les shows de catch du style WWE, Raw, SmackDown, etc. quoi. Et en fait, j'ai regardé comme tout le monde à la télévision. Et à la télévision, je sentais qu'il y avait la douille, tu vois, de « Mais attends, on ne montre pas tout. Les shows, ils sont quand même vachement courts. » Alors qu'ils nous disent « Le show le plus long qui dure 2 heures ou 3 heures, etc. » Et puis toi, tu tapes 1h30 sur NT1. Du coup, tu te dis « Mais il y a une couille, là. c'est bizarre. Donc moi, je dirais que j'allais sur Internet, en fait, et puis, comme je disais, c'est là où j'ai rencontré les potes, et notamment Cross, et lui, il avait un moyen de plaisir à passer les pay-per-view en ligne, je sais plus comment il se démerdait et tout, mais on pouvait voir les pay-per-view en live des streams américains, notamment, donc je me souviens qu'à l'époque, j'avais pu essayer de mater WrestleMania 25, notamment, je crois, des backlash, des conneries comme ça, tu vois, notamment les Royal Rumble aussi. J'ai beaucoup les Royal Rumble, j'adore les Royal Rumble. Tous les catchs un peu gimmickés et tout, j'adore ça. Et très vite, j'ai laissé ça pour essayer de mater surtout du catch indépendant et notamment avec Cross qui me montrait énormément de CZW. CZW qui était notamment connu pour les Deathmatch. Mm-hmm. Parce que, en plus du comedy wrestling, j'adore le catch extrême, hardcore. J'ai, comme un peu tout le monde sait, ma sensibilité. Donc, l'ultra-violence, ça peut parler, comme ça peut complètement dégoûter des gens. Et je vois ça un peu, c'est comme les films, tu vois. C'est normal, t'as des gens, ils vont kiffer voir des trucs style, je sais pas, High School Musical, Le Roi Lion, des comédies musicales ou des Disney. Il y en a d'autres, ils sont, non, moi je préfère les films de genre, des trucs comme ça. C'est un peu, je pense que ce discours-là, t'as dû beaucoup l'entendre, notamment avec des gars comme Cody, tu vois. Cody Desrebus, lui, il pense, je pense, assez bien comme ça, tu vois. Il se dit, c'est comme les films, en fait, ces versions de catch, etc. Regardez. Et moi, je sais pas toi, mais moi, la CZW, à cette époque-là, en tant que jeune adolescent, moi, la CZW, je kiffais ça. C'est incroyable. Au-delà, en plus, des deathmatch, parce qu'à un moment donné, ils en faisaient beaucoup. Et je t'avoue qu'à un moment, je saturais. Ils avaient tout leur potentiel de gros tournois, comme surtout le best of the best. Où c'est notamment là où j'avais pu découvrir des talents comme Vicky, y avait surtout les Ricochet, Mike Bailey, catcheur québécois, ouais. T'avais Andrew Everett, Trevor Lee, qu'on connaît maintenant à Cameron Grimes, Jonathan Gresham, enfin, il y avait une pelletée de talents là-dedans, mais c'était monstrueux. Il y avait les Adam Cole, je crois que c'était un des souvenirs que j'ai de la CW qui m'aura le plus marqué, avec Adam Cole contre Sami Callihan, où Sami Callihan pète un câble, ce qui dit Adam Cole, je vais te faire une power bomb dans ma merde. Et il réussit à le faire. Et il fait une power bomb à Adam Cole dans sa merde. Adam Cole gagne le match sur un petit paquet. c'est des trucs qui me parlent. Tu vois, c'est des trucs que c'est d'une débilité, c'est trash et hardcore et tout. Mais c'est pas le trash, genre dans la vulgarité, c'est trash dans le sens, tu peux être dégoûté du truc, tu vois.
Je suis pas de cette génération là, donc du coup moi je t'avoue que c'est pas, tu vois, tu pourrais être mon fils, je suis ton père. mais tu vois, du coup la CZW, les deathmatch, ça c'est pas quelque chose dont je suis client particulier. C'est pas que je suis contre quelques matchs un peu hardcore, hein. Tu vois, par exemple, j'ai vu le dernier le main event de Dynamite, le Blood and Guts match, qui était un match
très bon
que j'ai adoré, tout simplement très adoré, bon. Tu vois, mais voilà, globalement je suis pas trop client de la CZW. Mais une fois, en fait, c'est assez fou. Hein. C'est-à-dire, finalement, tu t'es développé à travers le comedy wrestling beaucoup, et puis après, t'es passé un peu à l'extrême et l'intermédiaire.
Et ça a fait des allers-retours, tu vois, comme ça, en fait.
Ouais,
vraiment fait des trucs très style. Tiens, j'aime beaucoup le comedy wrestling. Je vais regarder ce qu'il y a dedans parce qu'il faut prendre ce qu'il y a dedans. Puis après, j'ai regardé du deathmatch, etc. Et il y a eu beaucoup de périodes comme ça. À un moment donné. Je pense que c'était vers 2014-2015, je me suis dit vas-y, je vais remater un peu la VVE un peu plus et tout, assidûment. Donc j'ai laissé tomber tout ce que je pouvais voir à côté, et puis du coup à ce moment là je me suis dit je vais remater un peu plus de catch indé. Donc à l'époque il y avait la PWG qui explosait véritablement. Tu avais notamment le catch Esturi qui avait beaucoup fait la promotion de la New Japan, et donc j'avais beaucoup maté la New Japan aussi à ce moment là enfin découvrais le pour par l'intermédiaire de la New Japan. Et après ça, là, les va-et-vient, les va-et-vient. Il y a eu des va-et-vient aussi, mais c'est autre chose, ça, c'est primé. Et moi, j'ai fait beaucoup d'allers-retours avec. Ça nous regarde pas, ça regarde que privé. j'ai fait beaucoup d'allers-retours avec les styles hardcore. Où notamment il y a eu la GCW qui s'est développée avec en ce moment, qui a remplacé complètement la CZW sur la scène indépendante en ce moment. Et à regarder ça, à regarder la New Japan, à regarder les Bloodsport, donc c'est tout ce qui est shoot wrestling, et à revenir très loin aussi dans le temps à essayer de remater tous les très vieux matchs de catch français qui ont été très, pendant très longtemps en France, très décriés. Mais ça, c'est la faute, en fait, du fait que la passation entre les anciens et la nouvelle génération des catcheurs a été très compliquée. Parce que beaucoup de catcheurs voulaient débuter. Beaucoup de jeunes catcheurs voulaient débuter parce qu'ils avaient vu la WWE, donc le style américain. Alors que le catch français, il a une vraie identité, en fait. Hein. Il est à l'origine de plein de trucs qu'on voit partout. Notamment, tu vois, la lucha libre de maintenant. Le catch français le faisait déjà 20-30 ans avant, quoi. C'est des trucs que alors j'ai même plus les noms en tête, c'est tout, mais t'avais les Roger de la Porte, Gilbert le Duc, tous ces gros talents comme ça et tout. Il y avait les Bourreaux de Béthune, l'Ange Blanc. Enfin, il y a très peu de matchs, justement, je trouve. J'allais dire beaucoup de matchs, non, il y a beaucoup de matchs en termes de quantité, mais il y a très peu de matchs. Finalement, assez bien répertorié, par exemple sur YouTube, où justement tu peux retrouver du vieux catch français. Et à ce moment-là, du coup, j'ai glissé vraiment à regarder tous les vieux catch français comme ça, le catch technique anglais, qui a aussi sa connotation et son rapprochement un peu avec le catch comédie. Donc tu vois, il y a beaucoup de trucs qui se croisent, entrecroisent. Et c'est là où tu te dis justement que tout ce qu'on fait, il n'y a rien de ce qu'on fait qui est nouveau. C'est toujours inspiré de quelque chose, on s'inspire toujours. Et ça, ça a été toujours vrai pour le catch, mais globalement pour le film, le cinéma et globalement pour l'art, quoi. L'art, ça a toujours été quelque chose, tu ne crées vraiment rien. Tu crées quelque chose parce que tu as vu des choses qui t'inspirent et tu reprends ces éléments pour faire à ta sauce, quoi. Et c'est là où tu crées l'identité.
C'est tes influences culturelles, voilà, qui vont créer l'identité du catcheur que tu vas être, du violoniste que tu vas être, de l'ingénieur que tu vas être, etc.
Faire un camion mélodique en voiture Simone, quoi, total.
Donc tu vas être c'est bien, tu es un catcheur qui
est très bon client,
qui est polyvalent, qui regarde un peu toutes les fédés, un peu qui a un œil sur toutes les fédés. Donc tu t'es au fait de l'actualité catchesque. À 26 ans, c'est une bonne chose que tu sois passionné comme ça et que tu puisses non seulement suivre tout ce catch mondial là, tout ce maelstrom de catch qu'il y a dans le monde et en même temps pratiquer l'ignoble sport.
On essaie, mais après au vu du nombre de contenus qu'il y a dans le monde, c'est par contre pour moi, je t'avoue, c'est impossible de suivre tout. C'est complètement impossible. T'es obligé de faire des choix de toute façon dans tous les cas. Il y en a, ça va être très 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 clair. Ils vont se dire, je vais mater que Raw et SmackDown, toi, par exemple. Moi, du coup, maintenant, je suis passé une étape où je t'avouerais que quand même Raw, SmackDown, t'es pas des trucs qui m'excitent au plus haut point, quoi. J'ai plus envie de voir. Ok, ça c'est les vieux programmes. J'ai envie de voir qu'est-ce qu'ils vont être proposés maintenant. Et même, tu vois, à mes yeux, tu vois, NXT, qui peut être très bon, depuis qu'ils sont passés par exemple sur l'USA Network, c'est à basculer dans un côté. Je suis pas très à l'aise avec ça, tu vois. C'est pas quelque chose qui va vraiment m'exciter de me dire, tiens, je vais mater NXT et je vais passer un super bon moment, quoi. Les moments où j'avais ça, c'est quand j'allais mater les NXT Takeover, où là, tu te prends des soufflantes, des gifs de gitans dans la tronche parce que t'as 4 combats. Et les 4 combats, ils sont ahurissants, quoi. Alors que maintenant,
On va en faire une belle transition. Ton top 5 de tes catcheurs préférés ever.
Ah, ever.
Ever. Ever. On tape dans le haut du panier, on monte the bar, ok. Donc ton top 5 ever de catcheurs.
J'ai aucune idée. Toutes
fédérations confondues.
En vrai, je t'avoue, j'ai aucune idée parce que mon possible. Top, il doit changer.
Un fan de catch, il répond pas à ça. Un fan de catch, du tac au tac, t'arrives quand même à en sortir 5. Même si c'est après, t'auras des regrets, mais c'est pas grave.
J'aurais toujours des regrets parce que, en fait, j'ai un côté où, du coup, j'ai une mémoire en plus très, très courte, tu vois. Où, du coup, je vais dire, lui, franchement, je kiffe à mort. Il y a quand même des gars du style Shawn Michaels. Où, en gros. Tout ce que j'ai vu de Shawn Michaels, il y a Chris Jericho aussi, ou tout ce que j'ai vu de Chris Jericho, quand moi j'ai grandi et j'ai voulu débuter dans le catch et que j'ai vu ces mecs-là continuer à faire leur truc, Bon, Schumacher, c'est pas longtemps parce que hein lui, ouais, hein. Il était parti en 2011-2012. L'Arabie Saoudite, ça n'existe pas.
Non, je n'ai jamais entendu parler de ce match, donc je ne vois pas de quoi tu parles.
Et voilà. Et des catcheurs comme ça, bon, si déjà je peux te balancer si tu veux Jericho Schumacher. Ça, c'est obligé, c'est des références pour moi parce que j'ai grandi avec eux. Et en voyant leurs matchs, leurs vieux matchs, même les trucs qu'ils font que Jericho fait actuellement, enfin, c'est ahurissant. C'est un modèle incroyable quoi, à suivre. Mais après, mes modèles, top ever fan de catch, franchement, ça dépend vraiment des périodes. En ce moment, j'ai un truc où je découvre Misawa, tu vois. Parce que moi, j'ai loupé le coche un peu des gens qui disaient « Ouais, vous êtes fan de la New Japan, ouais, mais bon, il y avait la AJPW, il y avait la Big Japan, etc. Et tout. Enfin, il y avait Giant Baba contre Misawa, contre Kobashi, contre Mon Cul, enfin, contre tout ce beau monde. Et moi, j'ai complètement loupé le coche. Tu vois, c'est le côté un peu… je sais pas, par exemple, si toi, tu as des films ultra populaires que toi, tu n'as jamais vu parce que justement, il y a des gens qui te disent « Non, mais regarde ce film, il est génial. » Et toi, t'es à côté, tu fais, j'ai la flemme, fous-moi la paix. J'ai envie de faire ça à mon rythme et tout. Ben moi, ce truc-là, moi, c'était les Misawa, etc., les Kobashi, j'avais la flemme. Et j'ai découvert ça, je crois, en début de confinement, toi. Parce que ça ne m'intéressait pas plus que ça, en fait, le vieux catch japonais. Puis après, j'ai découvert ça parce que déjà, il fallait quelque chose pour que. Il me fallait un truc pour me divertir quand je prenais le métro, tu vois, les métros parisiens. Parce que putain, tu te fais chier quand tu te fais 2 heures de métro par jour, quoi. Et à la période où justement, tu sais, t'avais la faim un peu, tes travails, etc. Et tout, donc tu veux revenir en entreprise. Et c'est à ce moment-là, je me suis bouffé à balles de catch japonais. Et je me suis maté, bah, du coup, tous les trucs de Kobashi, Misawa. À un moment donné, Stan Hansen. Je sais pas si tu vois la
ah, tournée du gars. Bien, ouais. Je vois
le
bien
gros bourrin qui est pas. C'est pas exceptionnel dans le ring, tu vois. Le mec, c'est juste un bourrin. Et bordel de merde, tous les matchs qu'il fait, ça m'éclate. Et donc, lui, tu vois, juste par juste cette période-là, tu vois, mais c'est très récent. Et juste ouais, à cette période-là, alors que j'avais jamais maté un match de lui, lui, il est rentré dans mon top, tu vois.
Donc, tu aimes le catch old school, et c'est marrant parce que c'est pas la première fois que je parle avec un jeune sur cette antenne. You Talk Too Much, et qui ouais. Lui aussi me confirme son amour pour le catch old school français ou américain, etc. Et, et c'est marrant que votre génération, à vous, tu vois, comme ça, soit attachée à cet héritage finalement. Et c'est
un vrai héritage, et c'est quelque chose qu'il faut surtout pas oublier, quoi. Après,
je trouve ça génial que ta génération puisse avoir ce sentiment et cette façon d'aborder le catch. Je trouve que c'est bien, tu vois, ça renforce le côté culture du sport qu'on aime, quoi, de la discipline qu'on aime, de l'entertainement qu'on aime.
Bah oui.
Et ça c'est cool. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de sympa à entendre.
Tu vois, par exemple, en ce moment, tu mates beaucoup, j'imagine, VVE par rapport aux chroniques, par rapport à etc. Tout ça, mais t'as des trucs que tu dois mater peut-être des fois de temps en temps. En disant, lui, j'essaie de me souvenir qu'est-ce qui s'était passé en ce moment, etc. Et tout. Je me souviens plus de ce match ou je me souviens plus de ce truc. Genre, par exemple, le dernier truc que tu as pu voir hors VVE actuel, tu vois, ça doit être quoi? C'est des vieux matchs d'avant de.
Le dernier truc que j'ai vu, bah, c'était mercredi, c'était la Elite Wrestling. Mais si tu veux, moi je regarde la Elite Wrestling, je regarde du catch mexicain, la AAA principalement.
Alors ouais, pour le coup, je suis un peu moins fan de Lucha Libre, je t'avoue.
Je regardais
Lucha Libre, je suis pas encore lancé dans le coche où la Lucha Libre, je supporte ça. Cody des rebuts, on n'a pas parlé à ce moment-là, mais à une époque, c'était, je me souviens qu'on faisait beaucoup de soirées avec Cody, Antoine Bernard et Cross notamment. On avait justement fait une soirée où on voulait aller voir, on voulait se mater un show de la AAA, je crois, comme ça, où en gros c'était que des matchs trios, etc. Et on s'était gouré dans le jour, qu'on avait vu un autre show AAA. L'opener nous avait tellement mis dans la tronche, mais c'était l'opener et c'était que des nains. Que des nains qui faisaient des trucs de taré. Et le match avait duré 10 minutes, un quart d'heure. On a cru qu'il avait duré une demi-heure, tellement c'était bien. Du coup, il avait l'air super long, mais il était super bien. Mais on était épuisés. On était complètement épuisés. Puis après, tu vois d'autres luchadors qui vont se faire des trucs de taré et tout. Juste derrière, on est vite passé à autre chose. On était putain, on est épuisé quoi.
J'étais un gros fan de la Lucha Underground. Je suis voilà un peu le.
Oui, la Lucha Underground. Par contre, pour moi, c'est de la lucha vraiment épurée avec tout ce côté storyline et ce côté justement production un peu à l'américaine, un truc noir et tout. Un peu à la Sin City et ça a donné vraiment une atmosphère. Ultra stylé, Lucha Underground, c'est vraiment
le quality plus. Over quantity. Et ben, c'était finalement une ambiance. Il y avait un petit côté Lucha Underground que j'ai bien aimé en fait dans cette ambiance qu'il y avait au Palais des Sports de Corbeil. Et ouais. C'était cool. C'était quelque part un peu ça, hein, vraiment un truc underground en pleine Corona Mania. Vraiment un truc. C'était ça, c'était cool. C'était bien quoi. J'ai bien aimé cette ambiance là quoi. Et je regarde après. Moi, je vais regarder quelques highlights de la NJPW, mais c'est assez rare. Je suis un peu Wrestle Kingdom par contre chaque année voilà je vais m'intéresser
ça c'est le grand rendez-vous maintenant
et souvent je regarde la finale du J1 ouais. Voilà tu vois et sinon bah, du catch j'en regarde déjà beaucoup je regarde la au niveau du catch français bah quand je peux me rendre à des shows j'y vais je suis déjà allé à des shows de la PC de la Wrestling Stars de la WPE
putain la Wrestling Stars on n'a pas parlé de ça mais ça trop bien aussi hein. C'est enfin trop bien ça dépend
je les ai vus à quelques occasions voilà tu vois si j'ai du catch français pas trop loin etc si je peux j'y vais et puis je profite de l'antenne que me donne la team catch up pour inviter des catcheurs français comme toi et partager un peu ce qui se passe sur le territoire parce que c'est vrai que les fans de catch en France on est très absorbé par la Big League, par la WWE. Moi, le premier, tu vois, le quinquennaire, je suis quand même avant tout un fan de la Big League. Après, je regarde le catch.
Ça, c'est normal, quoi. On a tous été comme ça, quoi. Aussi.
J'ai découvert le catch par le catch français quand j'étais enfant. Et si tu veux, j'ai découvert le catch américain dès son arrivée sur les ondes en France au début des années 80. Et donc, j'ai suivi toute cette évolution. Maintenant, on est au 21e siècle, on est en 2021. Je suis en train d'interroger un catcheur français de 26 ans, 85 kilos de viande, tu vois. Et c'est parce que c'est la passion et tout ça. Mais c'est au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a tout ce côté culturel. Je reviens là-dessus, sur un jeune comme toi qui parle de ça sur des matchs que finalement, moi, des fois, j'ai vu en direct. Tu vois, je te parle de, je sais pas, WrestleMania 3, Macho Man versus Ricky Steamboat. Ça, c'est un match que j'ai vu à la télévision. Tu sais, j'étais un adolescent et je regardais Ricky Steamboat versus Macho Man, où j'ai vu le
reste. C'est quelle année ça on se marre un peu, tu vois.
Avec le 1900, oh là là, je ne veux même pas en parler. C'est 1900.
Le 3, c'était en 86.
86,
tu vois, j'étais même pas dans l'idée d'être conçu, tu vois.
Et ouais, voilà.
Et en 84, j'ai quand même maté le match, tu vois. Je l'ai quand même maté avec Dailymotion, tu vois.
le main event avec Hulk Hogan et Mr. T, avec Cyndi Lauper à WrestleMania. Enfin bref, tu vois, toute cette période-là. Tu vois, moi, j'ai vécu l'avènement sur les ondes télévisuelles françaises. Le catch français, en fait, je m'y suis que très, très peu intéressé pendant toute cette période-là, en fait, des années 80 jusqu'à la fin des années 2010. Le catch français, j'ai commencé à m'y réintéresser à partir des années 2010. C'est là où, là, vraiment, j'avais déjà été voir une ou deux fois des shows. Et là, à partir de 2010, je suis allé plus régulièrement voir des shows. Je me suis mis à suivre la RIX parce que je trouve que le concept est super sympa.
Tombé au niveau du timing, mais le concept est super cool. Quoi.
Je l'ai déjà dit sur ces ondes, j'aurais rêvé ou je rêverais, pourquoi pas. Allez, on est dans le fantasy booking, mais. Un NXT France, ça m'aurait fait mais trop kiffer. Et puis alors participer à un projet comme ça, alors là, comment ça m'aurait branché à mort. Mais je trouve que Rix Intrépide, là, j'ai que des félicitations à leur envoyer. Je les repartage régulièrement sur Twitter. Je les suis, je les regarde avec Cody aux commentaires. La troupe de catcheurs qui, pour l'instant, est là, pareil, là, sur les épisodes qui viennent d'arriver, ça me plaît plutôt bien. Je suis vraiment content de voir un programme comme ça de catch français qui se démarque un peu. Je trouve aussi, toujours lié à mon grand âge, que si tu veux, sur les réseaux sociaux, la communauté Catch FR est plutôt nombreuse, et finalement, et que je pense que un jeune comme toi et tout ça, un ravage, il va peut-être faire des ravages, justement, parce que tu vas grossir petit à petit, tu es encore jeune dans la profession, et tu vas prendre de l'expérience, tu vas mûrir. Si la RIX continue à être forte et que les autres fédés françaises continuent à organiser des shows de qualité, comme ce qui s'est passé à la WPE, je vois un avenir sympa pour toi, Ravage.
Sachant que juste avant que la Rix se prenne la soufflante du Covid dans les dents, il devait y avoir normalement ce tournoi pour annoncer le premier champion de la Rix.
Ah ouais, ouais, ouais.
Je dis ça, je dis rien, tu vois. Mais je dis quand même.
Exactement. Un appel est lancé. Il y en a qui ont envie de title shot, là. Moi, je vous le dis, messieurs. Ah
bah, déjà qu'ils ont une division équipe qui est très forte. Hein. C'est pas pour rien qu'on a perdu au premier Rix Intrépide. Parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas catché. Enfin, les gens, ils vont dire ouais, mais ils cherchent des excuses. Non, non, c'est. C'est la réalité, on s'est pas entraîné depuis super longtemps, et on affronte Jago et Gustave Lebrun, qui sont des personnes qui appartiennent à des divisions par équipe de la Rix, qui sont pas dans la même équipe, mais qui appartiennent quand même à la division par équipe de la Rix. Donc le gars, ils étaient affûtés, ils sont entraînés et tout, c'est... Voilà, c'est des connards, quoi.
Ouais, voilà,
mais la division par équipe de la Rix est très forte, mais j'ai déjà prouvé avec le match de Rakuir contre Spain que en solo je peux mettre des calottes.
Des taquets, quoi.
Des taquets. Des maraves.
Mandales.
Des mandales.
Et alors, mon bon Ravage, on arrive à la fin de cette émission. Le temps est passé vite. Hein. C'était vraiment super intéressant, super instructif cette affaire. J'ai envie que tu présentes au peuple de catch-up un peu où on peut te retrouver, où est-ce que tu bosses, voilà, là en régulier, que ça soit sur le catch là en ce moment, ton actualité, et puis surtout que tu donnes tes réseaux, voilà, Twitter et compagnie. Vas-y, c'est à toi.
Non, je craque les doigts, j'arrive pas. Tu rajouteras un bruit de craquement de doigts dessus.
Et les Twitter de ton trio du Shield, Nukes, qui font des Nukes teasator à tonton dans le studio.
Oh bah écoute, moi. Ah vache. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram, Facebook, Twitter. Instagram, c'est très simple, c'est RavageCatchFR. Facebook, je ne sais plus du tout. Vous tapez Ravage, vous trouvez une tête de Gogol. Peut-être c'est RavageCatchFR. Ouais, c'est RavageCatchFrance. Ou Instagram. French Style. C'était mon ancienne marque un peu... notamment connu pour le catcheur qui fait des câlins, tu vois, ce genre de truc. Et les boutiques en ligne, si vous voulez nous
ah oui, la soutenir. Boutique en ligne, le monsieur fait du merch.
Ah oui, le merch quand même, parce que nous, il n'y a pas de show, on ne peut pas vivre. Déconne, on a tous des boulots à côté, vous voyez. Je pète le quatrième mur, mais on a tous des boulots à côté. Personne ne vit du catch en France. Mais si vous voulez quand même nous soutenir pour nous faire, en plus déjà, bien vous habiller. Parce que les designs, ce n'est pas pensé par un chimpanzé, tu vois. Vous pouvez aller sur le shop des Nukes, qui est une boutique de spreadshirt. Vous retrouvez des beaux designs de Ravage et Cross fusionné, Ravage et Cross au Far West, ou de Ravage qui pisse sur les pieds d'André le Géant, mais dans l'attitude Nukes qui se respecte, hein, bien évidemment. Et vous pouvez suivre sur Twitter. Mes copains Cross avec son hashtag Cross, enfin son arrobas Cross le Nukes, et Kuro qui a un hashtag de merde, il me semble. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais pas le trouver, ce bâtard. Si, c'est Kuro the Kid, arrobas Kuro the Kid, tout attaché, Kid avec 2D. Et j'aimerais énormément te remercier, tonton, parce que. C'était franchement une super discussion.
Ah, on n'y est pas encore au remerciement, on y est presque, mais on n'y est pas encore.
Ouais.
Je voulais te demander une ou deux précisions sur...
Tu me fais chier, je te remercie quand même.
je voulais que tu me fasses quand même encore une ou deux précisions sur la promo, là justement, là sur tes liens. T'es à Ravage, que c'est les hâtes de tes collègues, de tes collègues Cross et Kuro. Tu peux donner leur hâte à Twitch sur Twitter.
Je l'ai fait.
Ah, excuse-moi, je l'ai pas. Ah, j'ai pas bien entendu. J'ai eu un espèce de lag de son. Donc,
ça, c'est pas grave. Si mais je leur dis, Kuro the Kid. Et Cross le Nuke. Bah ouais.
Cross le Nuke. Voilà. Je suis abonné. Qu'ils le sachent.
Bah.
At tonton ketchup.
Il va m'envoyer un message. Je vais dire, il y a un gogol qui me suit là. C'est quoi cette histoire? La méchanceté gratuite.
Voilà. Bon, impeccable. Peuple de catch-up, vous avez tous les liens réseaux sociaux de notre ami Ravage. C'est ainsi que va s'achever cette 9e édition de You Talk Too Much. On a pas mal d'actualités, nous aussi, hein, mon cher Ravage, parce que ce fois-ci, on est un petit peu hyperactif comme garçon à la Team Catch-Up.
Bah,
vous pouvez nous retrouver sur tous les bons réseaux, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, PodCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer. Sur YouTube, actionnez la cloche, laissez des commentaires, surtout sous cette 9e édition avec notre catcheur Ravage. Là, il faut que ça soit le feu dans la section commentaires. Vous nous retrouvez sur Twitter, @catchupcdc. Et le tonton, c'est @tontoncatchup. Vous nous retrouvez sur Facebook, vous nous retrouvez sur Instagram, géré de main de maître par Raphaël Hier. Accédez au site officiel, catchup.lepodcast.fr. Vous avez également la communauté Discord d'où vous parle en direct en ce moment notre ami Ravage. Je crois que j'ai été complet sur la promo. Cette fois, ça y est, on y est, mon bon Ravage, sur les remerciements et ça va pleuvoir. Je suis enchanté de t'avoir accueilli dans notre comptoir. C'était vraiment super sympa de ta part.
Oh ouais, c'est grave cool.
Et c'était un échange d'expérience vraiment, vraiment intéressant. C'est voir le catch un peu d'une autre manière, si tu veux. Voilà, nous, on est un podcast qui transpire le catch, qui dégouline de WWE, d'AEW. On avait longtemps, pendant 22 épisodes, on a fait une baston du mercredi entre la NXT et la AEW, tu vois.
Ouais, bah ouais.
On a notre collègue Ringside qui a fait pas mal de chroniques sur la NJPW, tu fouilleras dans les archives.
Ouais.
On a fait pas mal de choses. Voilà. Par contre, on est complètement open sur la WWE, puisqu'effectivement, on review Raw, SmackDown, NXT, tous les pay-per-view, sans exception.
O5. S'il vous plaît.
Et
surtout avec ce qui va arriver.
Exactement, tu vois. Imagine la semaine de WrestleMania qu'on a passée.
Voilà,
et pour finir sous les flonflons et les feux d'artifice, sache qu'on fête nos 5 ans ce mois-ci. Et
trop bien.
Donc on encourage tous nos auditeurs à venir sur le Twitter ou sur le Discord pour venir déposer des questions pour l'édition spéciale qui aura lieu aux alentours de la fin mai. Je donne pas de date, je fais pas de spoil, mais pour l'instant, la date, c'est un peu compliqué, tout ça, les agendas. Mais voilà, donc on va fêter ce Catch-Up Anniversary. Donc, mon cher Ravage, tu seras même invité à nous déposer une petite question sur Twitter pour l'émission. Et ça sera avec plaisir que la team te répondra. Voilà, ouais. On est arrivé à la fin. Je vais te remercier officiellement. Je vais te faire un gros bisou sur ton masque, mon petit Ravage.
Voilà, comme ça, il y aura la marque du bisou dessus.
Ah, c'est fort.
parce que, rappelons-le, le devant est simili-cuir, donc il peut y avoir des restes collés à la texture. Mais
acheté,
en tout cas, je te remercie aussi également parce que c'est franchement super agréable. Moi, j'adore. J'adore parler. J'adore pas spécialement parler plus que ça. Enfin, je m'en fous. Mais parler avec des passionnés, avec des gens et tout, avec les fans, avec des personnes qui s'activent à essayer de produire des choses dans le milieu du catch français ou du catch tout court en France, c'est super cool, quoi. Puis je te dirais que Catch Up, ça peut transpirer encore plus. Moi, je t'aurais dit. Tu m'aurais dit qu'on allait encore plus transpirer. Je t'aurais dit, on peut encore plus transpirer si on prenait une binouze et qu'on reparlait. Tu vois, là, c'est là, la DSP, la Heineken, la pelle forte, tout ce que tu veux et tout. Là, avec plaisir, parler de catch indé, deathmatch, VVE, du pineapple contre
Inner Circle.
Là, franchement, au plaisir. Hein. Franchement.
Ouais, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, je te rassure. J'invite de temps à autre des guests, tu pourras le découvrir d'ailleurs. Je vais pas faire trop de teasing, mais quoi que ça va sortir après. Donc effectivement, parce que j'ai reçu là en guest exceptionnel pour la review de AEW Dynamite Blood and Guts, notre ami de la taloche du catch, en l'occurrence.
Ah, très bien. Tao,
qui était déjà intervenu une fois, lui aussi, dans un You Talk Too Much, dans la 3e édition, il me semble bien. Et donc il est venu partager avec moi le ring de notre studio pour reviewer Blood and Guts.
Parce que les gens, faut que vous sachiez qu'on est dans un ring là actuellement.
Ah oui, tout à fait.
Ils ont des moyens et tout, ils ont des thunes. C'est juste, ils ont pas de bière, donc on transpire juste avec la lumière comme des blaireaux, quoi. Mais
il y a du marbre dans les chiottes.
Il
hein.
y a du marbre quand même dans les chiottes. Ils ont pas déconné avec la déco. Ils déconnent pas avec vous, quoi. Ils savent bien recevoir.
Ah, ça fait plaisir d'entendre ça de la part du Ravageur. C'est parfait. Ouais. Eh bien, écoute, c'est sur ces bonnes paroles, mon bon vieux Ravage, qu'on va se quitter. On va se quitter, mais on va bientôt se revoir. Je le subodore.
Oh, c'est un joli mot, ça. C'est trop stylé.
Ah ouais, c'est stylé. Bon, écoute, tu iras chercher dans la rousse, tu verras. C'est sympa. Ouais. Il y a plein de mots comme ça.
Parce que moi, j'invente des mots et tout. Mais
déjà, tu as balancé le mot de la soirée, de toute façon. Là, le Nukizator. Je veux dire, la série est entiramée, c'est marque déposée.
Ça, c'est le mot qui va être le plus commenté.
Voilà,
sur la vidéo
hashtag Nukizator, hashtag Ketchup Anniversary. Voilà, ça va être les deux hashtags quand on va sortir la review. Là, je te dis, ça va chier. Là. Les Nukes Worldwide, voilà ce qui va se passer.
Oh, il va faire la gueule quand je vais dire que c'est ça le nom de la prise. Hein. Il va faire.
Ouais. Ouais, mais non, ça va passer crème.
Passer le jeune. C'est lui qui est le plus jeune, donc c'est lui qui... C'est, il doit que subir, de toute façon. Il n'a pas à discuter.
Allez, c'est super. Peuple de Catch-Up, j'espère que vous vous serez régalé pendant cette 9e édition de You Talk Too Much. Avec Ravage, notre catcheur français. 85 kilos de viande de catcheur français. Ça fait toujours plaisir dans le studio. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous encourage à aller voir toutes les reviews qui sont déjà en ligne. Cette semaine, vous avez déjà Monday Night Raw qui est en ligne. Vous avez le You Talk Too Much avec notre ami Géliel qui est en ligne. Vous avez NXT qui va arriver ce week-end, ainsi que Blood and Guts qui va arriver également. SmackDown dans la foulée. Le You Talk Too Much avec Ravage, ça sera dans la semaine qui va arriver. On vous renseignera sur tous les bons réseaux sociaux qu'on vous a signalés au préalable. On vous fait des bisous, on vous souhaite une bonne semaine, pleine de catch, on vous fait des cordes à linge, plein la face, salut Ravage.
Salut.
Salut
Papa. Bonne soirée, Nukes.
Nukes, ah oui. Et salut peuple de catcheurs. Hashtag Nukizator. Ça va être le feu sur Twitter.
Bah, j'espère.